VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Conakry, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. Côte d'Ivoire, les ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur, Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve, en visite à Abidjan pour témoigner de la solidarité de Paris avec la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les djihadistes. Deux jours après l'attentat qui a fait 18 morts dans une station balnéaire proche de la capitale ivoirienne. L'attaque a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a révélé les noms des assaillants dans un communiqué remis au journal mauritanien Al-Akhbar. Idriss Fall a joint notre confrère Ahmed Diop, rédacteur en chef d'Al-Akhbar, à Nouakchott.
D'abord, les assaillants ont identifié de toute façon des auteurs de l'attaque sont un certain Hamza Foulani, Abdelrahman Foulani, Abdelrahman Al-Ansari. Voilà, comme d'habitude, Akimi a l'habitude de nous envoyer des communiqués et nous avons cette primauté de l'information.
Est-ce qu'on en sait plus sur leur nationalité et leurs origines?
Bon, pour le moment, ils n'ont pas donné plus de détails à part les noms. Il y a deux noms qui sont donc des noms seuls. Ça rejoint les attentats ou les attaques qui ont précédé l'attaque contre la station balnéaire de Bassam, que ce soit au Mali, que ce soit également au Burkina Faso. Les auteurs, parmi eux, il y a des Peuls.
Des Peuls, on ne sait pas si ce sont des Peuls du Nigeria ou du Mali.
D'habitude, à Kini, ces derniers temps, quand ils recrutent, ils recrutent souvent des locaux. Mais pour le moment, on ne sait pas exactement est-ce que ce sont des Ivoiriens, mais on sait que la stratégie d'Akimi ces derniers temps, c'est de recruter des locaux.
Comment comprenez-vous cette extension vers le sud et des attaques jusqu'à Abidjan après les attaques de Bamako et de Ouagadougou?
D'abord, Akimi veut frapper les intérêts français, veut frapper également les pays qui sont en alliance avec la France. Un peu même avant ces attaques, on parlait du Sénégal, on parlait également de la Côte d'Ivoire et puis malheureusement, ils ont frappé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Akimi veut simplement peut-être dire qu'ils sont capables, après l'intervention Serval, Barkhane et tout cela, ils sont capables de frapper, pas seulement au Mali ou par exemple au Niger, là où on avait l'habitude de les voir, mais au-delà, là, comme en Côte d'Ivoire, comme au Burkina. Vous savez que Burkina était un pays qui servait de médiateur pour la libération de beaucoup d'autres. Donc si Akimi frappe beaucoup de Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est pour dire également que c'est eux qui maîtrisent le jeu, quelque part. On peut également voir la stratégie même, c'est-à-dire ce sont des hôtels contre lesquels on s'attaque. On essaie d'utiliser également des combattants locaux et on essaie également de faire le maximum dans les rangs des Occidentaux et notamment les touristes. Donc là aussi, c'est un aspect qu'il faut tenir en compte.
Ahmed Diop, rédacteur en chef du journal Al-Akhbar à Nouakchott en Mauritanie. Élection au Niger, la libération au nom de l'ex-président du Parlement, Ahmad Amadou, candidat à la présidentielle du 20 mars, continue d'être au centre des débats. L'opposant est incarcéré à la prison de Filengué dans le cadre d'une affaire de trafic de bébés. Ses avocats ont avancé son état de santé comme argument pour demander hier sa mise en liberté. La cour se prononcera le 28 mars. Réaction de Kalilou Taïrou, membre du bureau politique national du parti Modenfa Lumana, la formation politique de Ahmad Amadou.
Ce que nous introduisons comme requête, c'est pour l'histoire, c'est pour la postérité. C'est pour qu'à l'université, on enseigne ces différents arrêts, on se rendra compte de la supercherie. Mais de toute façon, nous savons que le candidat Ahmad Amadou, est un prisonnier politique. Donc, ce n'est pas les juges qui sont aux ordres qui vont le libérer. Il est clair que tant que Issoufou ne le libère pas, il ne sera pas libre. Voilà. Même le 28, il ne sera pas libre. Tant que Issoufou est là, tant que Hamma est là, il n'y aura pas liberté pour Hamma.
Kalilou Taïrou, membre du bureau politique national du Modenfa Lumana, le parti de l'opposant Ahmad Amadou.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, élection au Congo-Brazzaville, rumeurs sur les réseaux sociaux concernant un possible retrait de la candidature à la présidence de Jean-Marie Michel Mokoko, ex-conseiller pour la sécurité du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, qui brigue lui aussi un nouveau mandat. Pour en avoir le cœur net, Nani Talani a joint à Wando dans le nord du pays Jean Ngouabi, conseiller spécial du général Mokoko.
Madame, je voudrais vous rassurer et vous assurer que M. Jean-Marie Michel Mokoko ne s'est jamais retiré de la course à la présidentielle. En ce moment où nous parlons, Il était à Moussaka hier, il a quitté Moussaka ce matin, il est en train de battre campagne. Il est en direction de Evo pour battre campagne. Mokoko ira jusqu'au bout. Il n'a pas retiré sa candidature, madame.
Alors pourquoi toutes ces rumeurs autour de son retrait présumé de la présidentielle?
Vous comprenez, madame, que depuis que les autres candidats s'étaient déclarés, il n'y avait pas de problème au Congo. Dès que Mokoko s'est déclaré candidat à la présidentielle, on a commencé à avoir des ennuis, on a commencé à avoir toutes les tractations. Mokoko ne s'est pas retiré, mais c'est la peur, madame, parce que Mokoko a l'onction populaire, Mokoko est le candidat du peuple, Mokoko a derrière lui tout le peuple, il n'est pas le candidat d'un parti, mais le candidat du peuple, et le pouvoir se rend compte qu'avec Mokoko, ils sont en train de prendre de l'eau, c'est eux qui sont en train de diffuser ces fausses informations.
Est-ce que le général Mokoko lui-même est au courant de toutes ces rumeurs?
Je crois qu'il ne soit pas au courant parce que depuis hier soir ici, nous, à l'intérieur du pays, l'Internet est coupé. Donc nous ne pouvons pas savoir s'il y a eu une telle rumeur. Il n'est pas au courant. Il bat calmement, sereinement sa campagne. Il n'est pas au courant de cette rumeur qui a gagné les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas au courant, madame.
Jean Ngouabi, conseiller spécial général Mokoko, candidat à la présidence du Congo-Brazzaville. Crise au Burundi, 5 pays membres de l'Union européenne accrédités à Bujumbura ont donné des détails aujourd'hui sur la suspension de l'aide financière directe de l'Union au gouvernement burundais. Mais l'organisation pan-européenne maintient son aide humanitaire et son assistance à la population et exprime l'espoir que le Burundi prendra les mesures nécessaires pour faciliter la reprise d'une pleine coopération entre les deux parties. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
L'Union européenne a déclaré lundi que la situation au Burundi reste préoccupante. Avec de la volonté et de la détermination, l'Union européenne estime que les autorités burundaises peuvent contribuer au dialogue inter-burundais mené sous la médiation de la communauté est-africaine, comme l'a indiqué ce mardi à Bujumbura, l'ambassadeur de France, accompagné par 4 collègues de l'Union européenne.
Suite à cette consultation, l'Union européenne a jugé les réponses de la partie burundaise insuffisante, en tout cas non satisfaisante.
Mais l'ambassadeur de France au Burundi affirme que certaines mesures qu'a prises le gouvernement burundais vont dans le bon sens, mais ne respectent pas totalement les principes et valeurs démocratiques. Mais il y a quelques lueurs d'espoir. L'ambassadeur de Belgique a quant à lui affirmé à Bujumbura que son pays ne va pas envoyer des troupes belges au Burundi.
Notre ministre n'a pas pris des mesures pour amener des forces d'interposition au Burundi. Ce qu'il a proposé, c'est que la Belgique pourrait s'inscrire dans des actions qui éventuellement seraient décidées dans le cadre des Nations Unies.
L'Union européenne avait projeté d'aider le Burundi à hauteur de 420 millions d'euros pour la période 2016-2020, mais avec ces mesures prises, 322 millions d'euros seront gelés jusqu'à ce que des mesures soient prises par le gouvernement burundais pour normaliser les relations avec l'Union européenne. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Course à la présidence aux États-Unis maintenant. La campagne électorale a pris un tournant décisif aujourd'hui avec les primaires dans 5 grands États du pays, dont la Floride et l'Ohio. Chez les Républicains, une victoire du milliardaire Donald Trump est presque certaine en Floride, mais les sondages révèlent une lutte très serrée dans l'Ohio. Le gouverneur John Kasich espère freiner l'élan du maillage immobilier chez Rubien Dorsil.
En Floride et dans l'Ohio, le candidat qui arrive en tête des résultats ce soir remporte la totalité des délégués à la convention du parti. Les derniers sondages placent Donald Trump à au moins 16 points devant Marco Rubio dans son propre État, la Floride.
We have a movement going on, folks. This isn't just us here. This is all over the country.
Nous avons un mouvement en marche. Ce n'est pas seulement ici, chers amis. C'est pareil à travers tout le pays, dit Donald Trump. Dans l'Ohio, Trump et Kasich sont statistiquement à égalité. Ce dernier a fait campagne hier en compagnie de l'ex-candidat Mitt Romney, qui a fait récemment une sortie virulente contre Trump. Il dit ne pas croire que Donald Trump recevra l'investiture du Parti républicain, a assuré le gouverneur de cet État du Midwest. Dans le camp démocrate, tous les sondages prévoient une victoire de l'ex-première dame Hillary Clinton, mais le Michigan a prouvé la semaine dernière que les sondages peuvent bien se tromper.
Et pour terminer, conflit en Syrie, l'armée russe a commencé aujourd'hui le retrait de son équipement de Syrie après l'annonce surprise par le président russe Vladimir Poutine du désengagement du gros de son contingent militaire en territoire syrien. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.